11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Alors, confinera, confinera pas? Eh bien, je n'en sais rien, malgré mon passage ce matin au Café du Commerce. Donc, chers auditeurs, je m'abstiendrai de vous faire part de mon avis sur la situation et je vous invite à attendre plus tard dans la journée les déclarations de notre président. Et alors, en fait de président, il se trouve qu'il y en a un dans ce studio, c'est le président de Radio Campus Tour. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Donc les auditeurs connaissent déjà ta voix puisque tu es l'auteur du podcast Potemkin. Et aujourd'hui, tu reviens dans cette méridienne pour nous parler de voguing, il me semble.
Je viens vous parler de voguing, je viens notamment vous parler de Tiger Saint-Laurent, une danseuse de voguing très connue à Tours.
Voilà, alors avant de parler de Tiger Saint-Laurent et de voguing, nous allons écouter une chronique réalisée par Raphaël. Voilà, Raphaël Moreau, donc c'est une chronique sur Fessenheim, et oui, émission ô combien joyeuse aujourd'hui. Alors, en avant pour la chronique de Fessenheim, vous écoutez Radio Campus Tour, c'est La Méridienne.
Aujourd'hui, je vous parlais de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin. Alors, ce nom, il vous évoque forcément quelque chose, hein, car depuis les années 2000, elle est devenue le symbole de la lutte anti-nucléaire. Et cette lutte, d'ailleurs, elle va se terminer cette année, en 2020, car les deux réacteurs de la centrale sont désormais à l'arrêt. Donc quand on vous dit Fessenheim, vous revoyez de longues heures de débats sur les plateaux télé, les actions de Greenpeace et les manifestations autour de la centrale, eh bien moi je vais vous raconter les coulisses de cette lutte politique qui commence alors pendant la campagne présidentielle de 2012, lorsque François Hollande promet la fermeture de la centrale pour 2016. Alors avant d'entrer dans le récit, il y a trois notions très importantes à savoir, donc ce sont des notions qui nous viennent de l'analyse des politiques publiques. Alors la première notion c'est le veto player, donc ça renvoie à la capacité de certains acteurs politiques à imposer ou à entraver une décision. La deuxième notion c'est la théorie du principal agent, alors ça c'est une théorie qui traduit un rapport de force asymétrique dans la délégation des pouvoirs. Donc autrement dit, le principal agent lorsqu'il délègue ses pouvoirs à une personne, eh ben il reste son supérieur, ce qui place ce dernier sous son autorité tout simplement. Et la troisième notion, eh ben c'est le blame avoidance. Ou alors en français c'est l'évitement du blâme, cette notion elle renvoie à l'inaction des acteurs politiques, mais il faut savoir que cette inaction elle est calculée. C'est-à-dire qu'un acteur politique, eh ben, il va préférer ne pas prendre de décision impopulaire plutôt que subir les conséquences de cette décision impopulaire. Donc maintenant qu'on a ces trois notions, eh ben, on peut s'intéresser à François Hollande et à Fessenheim. Donc il faut savoir que cette promesse de François Hollande concernant la fermeture de Fessenheim, eh ben, elle est juste pour satisfaire son alliance avec les écologistes. C'est pas vraiment la priorité de son programme. De plus, bien qu'en étant le président de la République, il ne peut pas tout décider tout seul. Il doit se confronter à d'autres agents, et ces autres agents, c'est l'ASN, c'est l'Agence de Sûreté Nucléaire, et EDF, Électricité de France. Donc ici, nous sommes dans la notion du principal agent. L'ASN et EDF sont indirectement sous l'autorité du président via les administrations. Or, l'ASN et EDF, ils ont quand même un droit d'argumenter pour contester une décision de la présidence. Et de plus, en France, on ne peut pas fermer une centrale nucléaire comme ça. Il faut qu'on soit dans deux situations, soit un mauvais rendement économique, soit un problème lié à la sûreté nucléaire. Or, à Fessenheim, nous avons ni l'un ni l'autre. Pour contourner tout ça, le gouvernement il va faire voter une loi qui vise à réduire la part du nucléaire en France via la fermeture de vieux sites nucléaires comme Fessenheim. Or, l'État refusera de forcer EDF à fermer Fessenheim, et il se réfugiera derrière un avis de consultation de l'ASN qui dit que grosso modo, fermer Fessenheim n'est pas une priorité car il n'y a pas de problème au niveau de la sûreté nucléaire. Et donc, pour résumer, le président Hollande, il n'a pas envie de fermer Fessenheim, car cela reviendrait à se battre contre EDF et la région alsacienne qui dépend de cette centrale pour son activité économique. Donc ici, c'est là qu'on va retrouver la notion de l'évitement du blâme. François Hollande refuse de prendre une décision pour éviter des conséquences électorales et des conséquences sur sa popularité qui est déjà bien mise à mal durant son mandat. Or, tout ça ne va pas s'arrêter là. Le refus du président déclenche une guerre ministérielle entre le ministère de l'économie et le ministère de l'écologie. Ces deux ministères ont la capacité de nommer des personnes dans les conseils d'administration des entreprises dont l'État est actionnaire. C'est le cas d'EDF, par exemple. Donc, le conseil d'administration d'EDF, on va avoir une bataille rangée entre les agents nommés par Bercy, le ministère de l'économie, et ceux nommés par le ministère de l'écologie. Alors, Ce dernier, il va perdre la bataille et c'est Bercy qui va continuer à empêcher la fermeture de Fessenheim, car eux, ça les arrange parce que ça permet une rentabilité économique. Et ici, on va retrouver la notion de veto player dans le comportement de Bercy. Ils vont verrouiller le conseil d'administration d'EDF pour éviter la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et donc, ce verrouillage, il va être levé en 2017, lorsque François Hollande, il va annoncer son refus de se représenter. Et donc, vu qu'il n'a plus rien à perdre, vu qu'il n'a plus de conséquences sur sa popularité, il va entamer la procédure de fermeture qui sera activée en 2019. Via son prédécesseur Emmanuel Macron. Donc, on va remarquer que le président est omniprésent dans le dossier, et on se rend compte aussi de la complexité des acteurs et des luttes au sein des ministères. Et bien que le président promet la fermeture, il n'est pas le seul à décider, et des fois, il est préférable pour lui d'ailleurs de ne pas tenir sa promesse, plutôt que d'en subir les conséquences, notamment dans les urnes. Time of my life, man, it must be wrong, cause it feels so bright. I was chilling for a minute, then it hit me quickly. In a different world, fucking with Dwayne and Whitley. Used to grind, now I'm in it, struggling just to get it. Play the same damn game, I'm just in it to win it. So come for me, fuck with Z, I'm a single motherfucker, yeah, touch me, please. Goon, tell me that you love me, that you kill for me. In my dark world, you're my only fantasy. Yeah, I've been known, really fuck it up, they don't know shit. Zip, zap, zap, speeding on a highway, Bronco truck. Will you ask for the cats, motherfucker, here I come. Yeah, I've been known, really fuck it up, they don't know shit. Zip, zap, zap, speeding on a highway, Bronco truck. Will you ask for the cats, motherfucker, here I come. Super villain, I kill him, kicking the door, watch me spilling. I'm such a villain, straight killing, hinges, they catching them feelings. See me grilling, me drilling, me like me chilling, but really see I'm fulfilling their fantasies like I'm fucking my friend. Yo, what's up? Where in the world did you get that from? Where in the world did you get that from? When the bass drop down and you kick that drum, yo, where in the world did you get that from? Where in the world did you get that from? Where in the world did you get that from? When the bass drop down and you... I think there's something, something in the air, and I ain't turning down for nothing. I'ma make it loud and clear, and if these OGs think they bumping, they can bang it over there. Cause if it's one thing that I know is zebras fucking here. Everywhere I go, I gotta let these bitches know this is a shout out to the universe and kittens at my show. I'm the darling nigga with the wickedest flow. Yeah, I'm that bitch, but they already know. What's up, silly young motherfucker trying to get buck? Where in the world did you get that from? When the bass drop down and you kick that drum, yup. What's up, where in the world did you get that from? Where in the world did you get that from? When the bass drop down and you kick that drum. What's up, trying to get buck? What's up, young motherfucker trying to get. What's up, where in the world did you get.
C'est une chronique sur Fessenheim par Raphaël Moreau. Merci. Raphaël, vous écoutez toujours La Méridienne et même vous venez d'écouter très précisément Zebra Cats Been Known. Alors Antoine, pourquoi avoir choisi de nous faire écouter cette musique? Quel rapport avec le voguing?
Du coup, je vous ai fait écouter cette musique tout simplement parce que c'est la musique sur laquelle j'ai dansé. Vous allez bientôt écouter une interview de Tiger Saint Laurent, donc danseuse de voguing. Et Tiger, son but, c'est de faire une vidéo et de faire une chorégraphie. Et du coup, c'est la musique sur laquelle elle a choisi de faire cette chorégraphie. Et cette musique déchire. Pour avoir testé justement son cours, c'était absolument génial. Et donc on va à présent écouter une interview justement de Tiger Saint Laurent par Antoine Basset et Hugues Rivière, un camarade, qui s'est produite au Grand Cagibi il y a maintenant 2 semaines.
Alors nous écoutons cette interview dans La Méridienne.
Eh bien on est parti. Du coup Marion, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
Alors, je m'appelle donc Marion, et qui est Tiger Saint Laurent, mon nom de vogueuse. Je pratique donc le vogue old way, le pop deep and spin, the old way.
Est-ce que tu peux nous expliquer du coup cette danse?
Alors, le vogue, c'est la première version du voguing, puisque la vogue est la danse qui appartient à la culture ballroom. C'est la performance. Vraiment, la danse. Donc le premier, the first way is the old way, pop, deep and spin.
Pourquoi la pratique du voguing?
Ah, oh,
pourquoi est-ce que tu pratiques le voguing?
Pourquoi je pratique le voguing? Alors, j'ai commencé à voguer il y a un petit moment déjà. J'ai découvert le Vogue en 2007-2008 grâce à Archie Burnett qui est venu donner un stage en France, à Paris. J'ai assisté à ce stage qui a été une véritable découverte géniale pour moi. Découverte surtout de moi-même finalement, puisque en pratiquant cette danse comme ça, une semaine, tout venait se recouper puisqu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais et qui devenaient évidentes puisque j'étais une grande amoureuse de la house music déjà, que je connaissais très bien. Et cette danse se pratique en l'occurrence vraiment sur le disco, mais également beaucoup de house, deep house, qu'on appelle le garage. Vraiment, le house garage, c'est la musique du Vogue pop, deep and spin.
Mais du coup, c'est venu du coup des États-Unis, tu nous disais. Mm-hmm. Comment tu trouves qu'elle s'est implantée en France ?
Alors, elle s'est implantée en France, comme je trouve, comme ça s'est fait, puisque j'ai eu la chance... comme j'ai commencé assez tôt, j'ai vu la scène évoluer en France et j'y ai même, à ma façon, un petit peu participé. Par exemple, essentiellement grâce à mon travail à la Mona, qui est les aficionados de la house music, une soirée mensuelle qui a lieu à la Bellevilloise. Donc depuis quelques mois, pas vraiment. Et aussi parfois à l'extérieur, parce qu'on est aussi invité. La soirée a eu lieu pendant des années à la Java, puis à la Bellevilloise. Et depuis 2011, j'ai rejoint l'équipe. J'ai rencontré Nick V en 2009. Et on a commencé à travailler ensemble pour mettre en place quelque chose autour de la danse dans la soirée, parce que c'est un DJ passionné de danse, et il déplorait un peu le fait de voir peu de danseurs, en fait, de véritables danseurs, qu'ils soient professionnels ou non, mais de vrais amoureux de la danse sur le dance floor. Un petit peu, tu sais, attendre qu'il soit 1h ou 2h du mat pour qu'il se passe quelque chose, parce que il faut que les gens aient bu un truc, bu un verre, pris un truc, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ils ne sont pas suffisamment désinhibés. Et après, le dance floor passe un peu en mode automatique. Et moi, en tant que danseuse super amoureuse de la musique, c'était une rencontre un peu évidente. Donc, ce travail ensemble où on a créé, en fait, on propose une dance class aux gens au début de la soirée. Donc, à 22h, tu commences ta soirée avec une dance class par un professeur ou un danseur, mais souvent des professeurs quand même, de danse dite clubbing. Donc ça peut être du voguing, du wacking, de la house dance, de l'électro. J'essaie d'être assez variée, même aussi parfois des danses pas forcément clubbing, mais où les profs sont chauds pour jouer le jeu et venir s'enjailler avec nous, quoi. Tu vois, c'est vraiment cool. Il y a eu des cours de top rock, par exemple, qui est la pratique debout des breakers. Voilà, de la breakdance, avant de passer au sol, tu danses souvent debout. Et voilà, il y a un mec qui est venu donner un jour ce cours. Et c'est hyper agréable parce que pendant 1 heure, les gens dansent tous ensemble. Et en fait, la soirée commence comme ça. Tu vois, au fur et à mesure de la soirée, les gens de la soirée descendent dans le club. Il se passe déjà quelque chose. Et en fait, à 23h, c'est déjà le feu, quoi. Et ça, c'est quand même super agréable. Bon, j'ai l'impression déjà de parler d'un autre temps, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vécu ces trucs-là maintenant. Mais bon, voilà, c'est notamment ce que je fais, pardon, je m'éparpille, mais c'est assez important parce que c'est aussi comme ça que des gens découvrent certaines danses. On n'est pas à l'abri, en fait, sur un malentendu, d'avoir un coup de cœur. J'ai des élèves comme ça... des gens que j'ai gardés en contact ou qui ont pris des cours, qui sont mis à voguer parce qu'ils ont pris une dance class un jour à la Mona, ils étaient venus avec des potes et en fait ils sont tombés amoureux, quoi. Donc why not? Et alors il y a les dance class et à côté de ça, une fois par trimestre, on organise aussi un contest de danse, un petit peu inspiré des balls, enfin des kiki, des petits contests de voguing, puisque les gros contests c'est des balls. Les plus petits contests sont des kiki, selon s'ils sont organisés par des major house, des kiki house. Donc tout ça, c'est un peu du chinois, mais on a vite fait de comprendre quand on s'intéresse un peu à la culture. Donc c'est un contest de danse, une fois encore plutôt clubbing. Donc on ouvre les catégories au walking, au vogue, au runway, qui est cette façon de défiler, que vous avez peut-être pour certains déjà vu, où on défile avec des tenues en fonction d'un thème dans les balls. Donc on essaie de remettre un petit peu ce flow dans le contest en proposant un thème aussi à chaque fois. Il y a également une catégorie qui s'appelle Express Yourself, où les gens font plus une performance freestyle, mais quand même aussi un petit peu avec le thème, et c'est sympa s'ils peuvent raconter une histoire. C'est un genre de Me Against the Music en fait, parce que le DJ met un son et on doit faire une performance pendant une minute trente. Voilà.
Qu'est-ce que tu peux nous parler de ta house, s'il te plaît?
My dear house, the iconic house of Saint Laurent.
On retrouve d'ailleurs déjà dans Paris is Burning.
Oui, exactement.
J'aimerais beaucoup que tu nous en parles un petit peu.
Oui, la House of Saint Laurent est une ancienne house. C'est pour ça qu'elle est iconique d'ailleurs. Et elle a été established en 1982. Et pour notre histoire, l'histoire européenne, on fait partie, en fait, on a créé le chapter La Mother de ma house, Georgina, et qui est Lio Saint-Laurent, a décidé un jour d'ouvrir le chapitre européen, donc particulièrement en Allemagne, à Berlin. Voilà, elle a ouvert le chapitre Saint-Laurent, c'est la Mother européenne Saint-Laurent. Donc j'ai la chance de faire partie de cette majestueuse house.
Je parlais justement du documentaire Paris is Burning, donc on y apprend beaucoup de choses, principalement aux États-Unis. Et toi, justement, tu nous parles aussi du chapitre maintenant européen. Et tu viens de nous parler de l'Allemagne. Et comment à Paris, on retrouve petit à petit des nouveaux formats? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des nouveaux, des jeunes qui arrivent, et surtout des jeunes stars comme Kiddy Smile? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de
Alors,
cette nouvelle génération?
Déjà, ce que je peux vous en dire, c'est que ce n'est pas vraiment nouveau. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis un petit peu éparpillée dans la question précédente, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment vu la scène se développer, notamment à Paris, puisqu'elle se développe essentiellement à Paris, grâce au travail de Mother Lassandra, qui est Pioneer Mother, et Mother Steffi, mais qui était à l'époque un peu plus discrète. La Sandra a vraiment monté la scène à l'époque dans le sens pur et propre, dans la mesure où elle a proposé cette danse qu'elle a elle-même découverte plus tôt dans sa vie à de jeunes personnes LGBT de couleur, et qui avaient vraiment besoin d'un espace d'expression pour pouvoir dire qui ils étaient. Donc c'était assez, très très important, et ça l'est toujours énormément. Et au fil des années, la scène s'est vraiment développée très très fidèlement à la manière dont elle s'est développée aux États-Unis à l'époque, parce qu'en fait ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est une culture très très underground, mais on parle de mode ou quoi, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste que depuis qu'elle est arrivée en Europe, c'est-à-dire début des années 2010, elle n'a de cesse de croître et aux quatre coins de l'Europe, c'est-à-dire que maintenant on vogue vraiment à peu près partout, quoi.
Mais du coup, est-ce que toutes les communautés voguent? Parce que de base, c'était, comme tu le disais, souvent des communautés LGBTQ racisées.
Ah,
est-ce
oui.
que
ah, c'est
maintenant
toujours
tout
la
le
base.
Monde, est-ce que c'est toujours ça?
Oui, ou... bien sûr. Après, c'est ouvert à tout le monde. La preuve en est, moi, je suis blanche, cisgenre, mais il faut avoir quelque chose à apporter. C'est-à-dire que, évidemment, c'est ouvert. Il n'est pas question d'être exclusif et de justement dans une communauté qui prône l'ouverture et qui accueille tout le monde. On ne peut pas, du coup, il est hors de question de ne pas accueillir des personnes blanches ou hétéros. En revanche, il va de soi qu'on n'est pas là juste pour prendre quelque chose et juste, voilà, parce que c'est cool, parce que c'est joli de voguer, voilà, tiens, je vais voguer. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue, et je pense que je rejoins le point de vue de la communauté. C'est vraiment quelque chose, et c'est notre rôle d'ailleurs dans tous les pionniers, tous les gens, enfin moi je me prétends pas pionnière évidemment, mais dans tous les anciens et dans tous les gens qui véhiculent le voguing ou que ce soit, c'est toujours important de le rappeler. Personnellement, je ne commande jamais un atelier. S'il y a une personne qui n'a jamais pris un cours de Vogue, je vais toujours recadrer, culturellement, politiquement, sociopolitiquement. Ça me paraît essentiel pour protéger cette culture.
Tu expliquais que c'est une pratique qui venait des États-Unis, qui est arrivée en France, puis en Europe, au début des années 2010. Mmh. Alors justement, est-ce que le voguing reste une pratique un peu à part, ou est-ce que c'est une pratique qui s'est institutionnalisée ou qui est en cours d'institutionnalisation?
Alors, elle est en Hollande. On n'a aucune. J'ai envie de dire que c'est une culture qui est tellement belle, qui est tellement magique, qui est un tel safe space pour les gens qui en ont besoin, qui ont besoin de respirer, que on a envie. Il y a un côté cocooning qu'on a envie de garder. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui se sont permis de venir me dire, et certainement parce que justement, je suis blanche et cis, qui sont permis de me dire, je me permets de le dire comme ça aussi, ouais, mais moi je trouve que c'est pas très open, je suis pas très à l'aise dans un bowl, si je vais à un bowl je suis pas à l'aise, ou je me sens pas accueillie, et ça c'est quelque chose que je n'entends pas, je le comprends pas, puisque je fais, enfin, pour être là depuis des années et avoir assisté à un tas d'événements, avoir beaucoup voyagé, il y a aucun événement où je me suis pas sentie à l'aise en fait, aucun, au contraire, j'ai vécu des moments d'allégresse, et quand je vous dis que j'ai fait des dizaines d'événements, ouais, je pense que je peux vraiment commencer à arriver à un point où peut-être qu'il y en a où je les ai oubliés, c'est en parlant que je vais les remémorer. Donc j'en ai vraiment fait beaucoup, et à chaque fois j'ai été absolument émerveillée, quoi. Il y a toujours eu un moment, même un événement qui est un peu brinque-ballant, pas très bien organisé, il va y avoir quelqu'un qui fait un truc de dingue où tu te dis même pour rien que pour ça, ça vaut le coup d'être là et de supporter et de faire aussi, de toujours protéger. Vous voyez ce côté un petit peu nid. Alors oui, l'institutionnalisation, moi je ne parlerai pas d'institutionnalisation. Évidemment qu'on a envie de voir du plus de... Il y a des gens qui veulent voir du Vogue. Moi, des fois, j'ai des appels. On peut en parler pendant des heures. Hein. Oui, bonjour, on voudrait des vogueurs. Alors déjà, tu as du mal à comprendre... voilà. Et des fois, j'ai des requêtes vraiment particulières et délicates, quoi. Enfin, j'ai un peu pas honte pour les gens qui les font, mais pas loin, quoi, parce qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Ouais, le refus de ce genre de proposition passe par là. Après, que quelqu'un d'autre accepte cette proposition parce qu'il est moins scrupuleux ou parce que ça a plus de sens, ou... mais moi, je peux pas accepter. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Voilà, je ne vais pas prendre d'exemple concret parce que ça ne sert à rien, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il faut faire attention à la récupération. En revanche, utiliser ce magnifique moyen de communication, comme le fait, tu parlais de Kid Ismail tout à l'heure, où je peux parler aussi de Licia, qui est à Redoby, qui est une superbe personne également, qui est d'ailleurs danseuse pour Kiddy. Qui sont des artistes qui mettent énormément le Vogue en avant, enfin qui sont danseurs de Vogue et qui dit quand il a pris des danseurs pour sa tournée, oui, ça semblait évident de prendre des vogueurs. Son spectacle est juste magique. J'ai eu la chance de le voir à Tours et à la Gaîté Lyrique. C'était juste merveilleux, quoi.
Pour le mot de la fin, pour des jeunes qui hésitent encore à tester le voguing, qu'est-ce que tu conseillerais?
Ah bah, dans la mesure où ça peut t'apporter quelque chose de libérateur, que tu penses que tu peux t'exprimer librement et que ça peut t'apporter quelque chose de positif, tout en toi-même donnant quelque chose de positif, parce que c'est un partage évidemment. Il n'y a pas d'hésitation à avoir en fait. Il faut juste mouiller la chemise, mettre les baskets dans le sac et puis rencontrer les gens, aller à des trainings. Ici, à Tours, on se rencontre comme ce soir au Grand Kajibi. En ce moment, c'est de manière un petit peu particulière avec tout ce qui nous arrive. Mais voilà, on tient bon. On devait être là pour la marche des fiertés. Bon, c'est pas grave, on a été là la semaine dernière, c'était pas mal aussi. On a fait une petite marche de fierté bis un peu rigolote pour ceux qui ont suivi. Et voilà, on a dansé en l'occurrence, on a vogué, voilà. Enfin voilà, c'est ça aussi voguer. On n'a pas besoin d'attendre d'être dans une salle, au contraire. Au contraire, c'est tous les jours, ça peut se faire.
Merci Tiger Saint-Laurent, on espère vite te retrouver sur scène ou dans tes cours directement.
Ah, oui.
Donc à très bientôt, on l'espère.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Interview de Tiger Saint-Laurent dans la Méridienne sur Radio Campus Tours, réalisée par Antoine Basset. Alors Antoine, pourquoi diable t'es-tu intéressé au voguing ? Je pense que ça vient pas comme ça d'un coup. Pourquoi ça t'intéresse autant le voguing ?
Alors moi déjà ça m'intéresse. Alors cette interview était dans le cadre d'un cours, mais surtout en fait ça m'intéressait parce que c'est tout en rapport avec la communauté LGBTQ et notamment vis-à-vis de ce que Mélissa disait, j'ai fait l'émission Potemkin, le podcast Queerassé. Ce qui veut tout dire, qui était en fait un podcast sur les artistes LGBTQ tourangeau, et donc en fait elle aurait pu très bien rentrer dans le cadre d'une émission de Potemkin. Et la danse voguing, c'est vraiment une culture. Ça a été créé au début pour réunir les personnes. C'était surtout les cultures LGBTQ racisées dans les années 70-80, et en fin de compte c'était se retrouver et pas militer à l'époque parce que du coup c'était encore illégal, mais c'était se retrouver, avoir une sorte de famille parce qu'on était souvent discriminé et éloigné de sa famille. Mais du coup ça m'a toujours beaucoup parlé parce que je suis quelqu'un de militant, je fais partie d'associations, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Stonewall, de la marche des fiertés, des droits LGBTQ, et le voguing en fait partie de partie très intégrante, quoi, parce que du coup c'est soit de l'art, de la danse, etc., mais c'est des revendications politiques, c'est une forme de fierté, c'est se mettre en avant. Donc ça m'a beaucoup intéressé là-dessus, et Tiger Saint-Laurent en parle à merveille.
Alors peut-être un mot aussi sur cette deuxième pause musicale. Alors je crois que c'est un DJ Tourangeau.
Alors c'est un DJ Tourangeau, c'est DJ Damucel, qui est aka Sylvain Nior, qui est un DJ Tourangeau qui travaille avec Ocar, Les Ilots, que vous avez dû sûrement croiser plusieurs fois, et qui est absolument génial, et qui du coup a aussi travaillé sur des workshops avec Tiger Saint-Laurent. Donc je voulais, vu que nous sommes une radio locale, nous mettons en avant les artistes locaux.
Est-ce qu'on aura le plaisir de te voir danser, Antoine?
Vous aurez normalement le plaisir de me voir danser dans la peut-être prochaine vidéo de Tiger Saint-Laurent, à voir quand elle se le fera, étant donné le confinement. Mais normalement, j'espère pouvoir vous montrer, et normalement, j'ai quelques photos, donc vous pourrez peut-être trouver quelques photos avec l'article de ce podcast.
Eh bien, merci. Et peut-être qu'on peut espérer aussi le retour de quelques interviews de ta part.
Mais je l'espère bien. Je vais essayer petit à petit de remonter un petit peu Potemkin, je l'espère. Sachant que j'ai énormément d'idées et de personnes à interviewer. Tours étant une ville quand même très militante et avec beaucoup de monde. Donc je pense qu'on peut trouver des gens très intéressants comme Tiger Saint-Laurent.
Merci Antoine. Alors, je vous propose, chers auditeurs, dans cette méridienne, une pause musicale après laquelle vous entendrez une chronique consacrée aux bandes dessinées et aux romans graphiques par nos estimés médiathécaires de la bibliothèque municipale de Tours. Et pour l'heure, nous écoutons Conjuring torse nu dans la méridienne, suivi de la chronique de nos médiathécaires.
Marcher sur le sable, torse nu. J'aime danser sur la plage, torse nu. Dans vos yeux des étoiles, quand je danse torse nu. J'aime surfer sur les vagues, torse nu. Torse nu. J'aime danser comme un sauvage sur la plage presque nue. J'aime danser comme si j'étais le plus beau mannequin de la vitrine. J'aime bouger comme si j'étais Madonna qui fait du voguing. J'aime poser comme si j'étais Radakovski en plein shooting. Et c'est confiance dans la poitrine. Adieu le bouton de ma chemise en jean.
Présenter donc des bandes dessinées qui font partie de la rentrée littéraire de septembre. En fait, ces ouvrages, pour raconter un petit peu comment fonctionne à la bibliothèque, nous sommes un groupe d'acquéreurs BD donc sur tout le réseau des bibliothèques de Tours. Et donc, trois fois par an, on a un libraire fort sympathique, Olivier de BD Lire, qui vient nous présenter une trentaine de BD. Alors, il y en a qu'on a demandé à voir parce qu'on a lu des critiques et ça nous intéresse de les avoir en main. Et puis d'autres, c'est vraiment leur choix. Donc, ils nous amènent des bandes dessinées et puis ils les commentent. Et voilà, c'est l'occasion pour nous aussi de belles découvertes, de confirmations pour celles qu'on connaît et qu'on avait envie de voir. Et puis, des fois, de belles découvertes. Et là, il y a un petit peu, dans ce qu'on va vous présenter avec Léana, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, bah, je te laisse la parole, Léana, si tu veux commencer.
Oui, alors je vais commencer par Radium Girls de Si chez Glénat. C'est une BD de la collection, toute nouvelle collection Karma, donc, dont le but est de mettre en lumière la vie d'une ou plusieurs personnes ayant été un peu oubliées de l'histoire avec un grand H et dont le destin a pourtant eu une portée collective et donc un impact important. Et Radium Girls ouvre ainsi cette collection et raconte un fait effectivement très peu connu et qui méritait vraiment d'être mis en lumière. C'est l'histoire tragique de ces femmes, ces ouvrières qui, dans les années 20, ont eu et vu leur vie sacrifiée au profit du rendement, à cause du radium, donc en travaillant au prix de leur santé et en l'apprenant malheureusement beaucoup trop tard. En effet, dans ces années-là, le radium est perçu comme l'élément miracle et une entreprise américaine l'utilise notamment dans sa peinture phosphorescente afin que les chiffres des cadrans des montres qu'elle confectionne brillent dans le noir. Et ces travailleuses, qui sont représentées donc par un groupe principal de 6 femmes dans l'œuvre, très heureuses d'avoir un emploi par ailleurs, ces 6 jeunes femmes sont ainsi chargées de peindre les chiffres des cadrans des montres avec la technique dite du marquage aux lèvres, se résumant en 3 étapes, lip, dip, paint. Alors, explication, lip, elles lissent le pinceau avec leurs lèvres, on voit déjà, malheureusement, on imagine déjà comment ça va finir. Dip, elles prennent la peinture au radium, et paint, elles appliquent la peinture sur les chiffres. Et elles n'ont donc aucune idée des risques qu'elles encourent. Leur chef direct leur dit même à un moment que c'est sans danger, alors que les patrons, les grands de cette entreprise, entre guillemets, sont mis au courant des effets terriblement néfastes du radium sur la santé. C'est également montré très subtilement dans l'œuvre. Mais le profit compte malheureusement plus que tout, ce qui peut faire écho encore malheureusement aujourd'hui. Et on va donc voir ces jeunes ouvrières déchanter au fur et à mesure que les effets du radium apparaissent. On passe ainsi d'une joyeuse insouciance à une terrible tragédie. Mais on voit aussi leur lutte pour obtenir réparation pour les préjudices subis, lutte qui va finir par porter ses fruits. Et donc c'est vraiment une très belle BD où on se retrouve vraiment plongé dans l'atmosphère des années 20, j'ai trouvé, avec un très beau travail de l'autrice illustratrice, tant dans le style que dans les recherches menées en amont. On le devine très bien à travers l'œuvre, ouais, à travers le graphisme. Et il y a vraiment de très belles planches, notamment des pleines pages, vraiment très, très belles et très touchantes. Le ton aussi, le jeu des couleurs et ce contraste entre le vert radium et les tonalités de violet, ça donne vraiment un très bel effet. Et le dessin est fait au crayon de couleur et tout cela donne vraiment un très très beau rendu, très original, vraiment très joli. Et c'est donc, je trouve, une BD qui a vraiment toute son importance et qui a beaucoup plu à tous les collègues l'ayant lu et qui mérite d'être connue, lue et relue. Et donc, petit plus, comme on le disait hors micro, la BD, la première couverture de la BD brille dans le noir. Et donc, le visage de ces femmes devient phosphorescent et c'est vraiment impressionnant et ça fait en plus écho à leur premier surnom qui leur a été donné, les Ghost Girls. Et en plus on voit aussi dans le noir du coup la face cachée du radium et les effets que ça va avoir, les effets atroces que ça va avoir sur leur santé. Voilà.
puis c'est surtout aussi la lutte en fait hein, qu'elles ont menée, bon, qu'elles n'ont pas vraiment gagné, mais comme insiste l'auteur à la fin, oui. Finalement il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui a réussi à gagner son procès contre l'entreprise c'est qui ça, l'employait. Donc quelque part, même si pour elles, elles ont eu un dédommagement, je crois, il n'y a pas eu vraiment une décision de justice, ça a quand même favorisé, enfin ça a surtout fait...
Pour
prendre prise de conscience des risques des personnes tout au travail fait, et ouais. Ça a fait avancer la législation. Ouais. Donc il y a un côté aussi un peu militant.
Oui, tout à fait.
Donc très belle BD qui trouvera, c'est sûr, sa place sur nos rayonnages prochainement.
Oui.
Je continue ?
Oui, vas-y.
Alors, on est dans les belles bandes dessinées. Donc, je vais continuer avec une très belle bande dessinée. Donc, Luca Harari, La dernière rose de l'été, donc paru chez Sarbacane. Donc, Sarbacane propose des très, très beaux ouvrages avec un dos toilé dans les tons roses. Donc, c'est la deuxième bande dessinée de Luca Harari. Il a écrit précédemment L'aimant, que nous avons à la Bibliothèque Centrale. Donc, très belle réalisation pour un album qui le mérite vraiment. Donc, Luca Harari, il a fait des études d'architecture et ça se sent dans le graphisme et notamment, évidemment, la représentation des maisons. Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Léo. Léo, c'est un écrivain en devenir, on va dire. Il rencontre son cousin vraiment par hasard dans une laverie. Donc, on suppose qu'il est à Paris. Et donc, le cousin lui propose de garder sa maison pendant les vacances. Lui, il n'est pas là, il y a des travaux. Et donc, il propose à Léo de passer les vacances dans la maison pour surveiller les travaux. Et donc, Léo accepte la proposition. Donc, il arrive dans... Alors, on le voit prendre le bateau. On ne sait pas trop où c'est. On peut penser éventuellement au sud de la France, mais on ne sait pas. Ce n'est pas du tout situé. Et donc, il arrive dans cette maison. Et puis, il va découvrir un petit peu les environs, les habitants. On lui parle également, enfin il entend parler de disparitions inquiétantes de jeunes hommes qui auraient disparu, des adolescents qui auraient disparu. Et puis il y a une atmosphère assez spéciale dans cet endroit. Il va aussi faire la connaissance des voisins, plus particulièrement de la voisine qui s'appelle Rose, hein, qui habite une très très belle maison qui est donc juste à côté de la maison de son cousin. Très belle maison, très graphique, qui fait penser aux grandes maisons de Wright, Lloyd Wright. Alors évidemment, je ne vais pas trouver, mais bon, voilà, très très belle, croyez-moi. Et donc, cette jeune fille est un peu mystérieuse, elle aussi. Donc c'est un climat un peu pesant, ces disparitions, il y a un commissaire qui est dépêché sur place, qui va venir enquêter. Et puis lui, de sa fenêtre, il observe les comportements de cette jeune fille, de son groupe d'amis. Et donc, au fur et à mesure, la tension est palpable. Le mystère s'épaissit, on va découvrir au fur et à mesure ce qui s'est vraiment passé. Au niveau de l'illustration, c'est vraiment très très beau. Ça fait un peu rétro, ça fait penser un peu au dessin de Loustal. Le découpage est vraiment pareil, très audacieux. Il y a plein de choses, de petites trouvailles graphiques qui ont fait vraiment une très très belle BD, très belle réalisation. Donc voilà, et puis un mystère, il y a vraiment un suspense dans cette bande dessinée. On se demande vraiment qui est cette jeune fille, les disparitions, etc. Donc Léo va se retrouver un peu malgré lui au cœur de l'enquête. Donc voilà, une très très belle bande dessinée pour un jeune auteur. Je crois qu'il a 30 ans et donc c'est ta deuxième bande dessinée. Donc voilà, la dernière rose de l'été aux éditions Sarbacane qui va effectivement elle aussi sans doute trouver sa place dans nos collections à la bibliothèque.
Oui, c'est vraiment un très bel ouvrage.
T'as bien aimé toi aussi, hein, Léana.
Ouais, ouais, ouais.
Puis il y a vraiment ce mystère, il y a vraiment une tension, il fait très chaud, il y a un côté un peu hitchcockien par moment.
Oui,
enfin
oui,
voilà,
oui.
Des personnages un peu...
On est plongé dans une atmosphère hitchcockienne, ouais, t'as raison.
Ouais. Et puis ce côté, ces couleurs qui sont vraiment très vives. En même temps, il y a un grain à l'intérieur. Donc, il y a un côté un peu rétro.
Alors, un peu moins impressionnante au niveau du dessin, mais très sympathique. Mmh. C'est donc Americana de Luke Haley, l'auteur-dessinateur jeune irlandais raconte sa propre expérience du PCT, le Pacific Crest Trail, sentier de randonnée mythique des États-Unis, allant de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, donc 4280 km où l'on passe du désert à la glace. C'est donc un trek réputé pour sa grande difficulté, alors que ce jeune homme n'est pas du tout un grand sportif au départ, comme il nous le présente,
oui, c'est il un, le précise c'est dès un, le début. Un auteur de bande dessinée.
Ah oui, oui, c'est ça, plutôt rondouillé. Hein, d'ailleurs, il y a une photo marquant le début du périple et une photo marquant la fin. Et c'est...
On voit qu'il y a une transformation notable.
Une transformation, déjà en tout cas physique. Ouais. Mais voilà, l'Amérique, lui, elle l'a toujours obsédé et il va donc décider de se lancer dans cette incroyable randonnée. Et ça va être l'occasion pour lui de se confronter à lui-même, à ce pays qui l'obsède depuis longtemps.
Là, il y a une vraie obsession. Il est vraiment obsédé par les États-Unis.
Hein. C'est, ouais, c'est ça. Déjà, quand il était jeune, donc il a voulu absolument faire ses années d'histoire, d'art appliqué là-bas. Mmh. Et à chaque fois, il voulait y revenir. Vraiment, il idéalisait cette Amérique, et donc là ça va peut-être un peu aussi le faire quelque peu déchanter, mais lui faire découvrir la réalité de ce pays qu'il idéalisait peut-être, qu'il fantasmait peut-être un peu trop. Donc oui, aventure humaine à travers les différents personnages qu'il rencontre, parce qu'effectivement il va aller dans des coins très reculés et rencontrer des personnes pas forcément les Américains les plus ouverts au monde, et à côté de ça des jeunes de toutes nationalités
un bel esprit d'entraide, ouais, aussi,
qui vont s'entraider tout au long de cette aventure, et c'est vraiment très très sympathique, très touchant. C'est vraiment une très belle aventure dans laquelle il nous entraîne à ses côtés, et à première vue l'œuvre peut paraître assez imposante.
C'est un peu épais. Ouais.
Mais elle se lit en fait très facilement. On est vraiment embarqué dans ce trek qui... Oui, c'est ça. On a vraiment envie de savoir la suite, de découvrir la suite. Et donc, pas du tout de clichés. Et donc, pareil, on est plusieurs collègues à l'avoir lu et à avoir beaucoup aimé. Et en plus, il a de l'humour, je pense...
Beaucoup d'autodérision, ouais, aussi. Voilà, hein. Il se moque beaucoup de lui, des aventures qui lui arrivent.
Ah oui, c'est...
Il rencontre des bêtes sauvages. Voilà, il y a toutes ses peurs aussi.
Ça pourrait être parfois effrayant, parfois... parfois, on a un peu pitié aussi, mais c'est toujours fait de manière très légère et humoristique. Je pense notamment à ce passage où il teste pour la première fois son sursac orange pour le duvet, pour se protéger encore plus de l'humidité. Et il se dessine à ce moment-là tout recroquevillé dans sa tente, dans son sursac orange.
D'ailleurs, ça devient son surnom.
Oui,
il s'appelle sursac.
En fait,
ils se croisent, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, il y en a qui continuent. À un moment donné, il est prêt à abandonner même. Hein, il arrête pendant une semaine avant de reprendre. Et donc, ils ont tous des surnoms sur la piste. Des fois, ils se croisent, il y en a qui s'arrêtent. Enfin bref, ils se croisent énormément. Et ils ont tous des surnoms. Donc, c'est assez drôle de voir des gens qui, au départ, allaient très vite finalement. Et puis lui qui prend goût, qui prend plaisir au départ, qui est un peu, qui se demande un peu ce qu'il fait là, et puis il est sûr de sa place et il profite de l'instant. C'est aussi toute une quête. La marche, ça permet de réfléchir, rencontre des gens, ça lui permet aussi de réfléchir sur sa famille. Enfin, il y a toute une,
tout un
cheminement, on va dire intérieur, qui peut permettre justement la marche. C'est ça aussi, c'est aussi le questionnement, cheminement. On réfléchit, on prend le temps.
Oui, on sent vraiment.
Donc il y a une très belle aventure intérieure aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais,
et qui d'ailleurs, je trouve que ça se ressent sur la fin. On voit que finalement, la route était longue, mais ce n'est pas vraiment ce qui a compté.
Oui,
c'est tout ce qui s'est passé autour finalement.
Ouais.
C'est une quête un peu.
Oui, c'est ça. Une très belle quête d'identité. Dans laquelle on a emporté. Donc Americana de Luke Haley chez Casterman.
Voilà, puis il y a un graphisme dans tout ton orange et bleu tout le temps. Donc il y a un côté. Assez minimaliste, mais en même temps un peu fouillé quand même. Enfin, ouais, non, c'est vraiment extrêmement plaisant à lire.
Oui, tout à fait.
Alors, pour ma part, j'ai bien aimé également dans notre office BD un petit livre couleur craft, on va dire, en noir et blanc, d'un illustrateur qui s'appelle David Snug, donc c'est un pseudo, qui s'appelle « Dépôt de bilan de compétences » aux éditions Nada. Donc, les éditions Nada, c'est une ligne éditoriale bien trempée. Ils s'intéressent à l'émancipation, aux marginalités, aux contre-cultures. Donc là, on est sur la réflexion sur le travail. Donc, ça retrace la vie, la jeunesse et l'adolescence et la jeune adulte, on va dire, de David Snug. Parce qu'en fait, le principe, c'est que le David Snug âgé, enfin plus âgé, on va dire, qui est donc l'auteur actuellement, rencontre son alter ego, mais plus jeune. Donc, on a ces planches où il y a le David Snug, on va dire, plus âgé, et le David Snug ado, qui se rencontrent et qui vont converser ensemble. Donc, ça, c'est assez drôle. Et puis, il y a toujours la petite note humoristique. À chaque fois, en fait, les deux se retrouvent dans un endroit. Alors, ça peut être dans une prairie, ça peut être... Et le jeune dit au vieux, mais pourquoi on est là ? Il fait, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma BD. Voilà. Donc, c'est un peu le leitmotiv, on va dire, de la bande dessinée. Et donc, en fait, David Snug voulait travailler sur la notion de travail. Dessiner sur la notion de travail. Et donc, il va reprendre tout son parcours et il va expliquer un peu comment il a commencé dans la vie. Donc, il a essayé de faire la BD, c'était pas simple. Donc, évidemment, il a trouvé des petits boulots. Donc, il va aussi mettre l'accent sur l'absurdité de certains travails, notamment le travail à l'usine où on demande à la personne juste d'être des bras, mais surtout pas une tête. Donc, par exemple, alors il y a des exemples très croustillants quand il est dans une usine et il doit aider le fromage, une usine à camembert, il doit aider le fromage à faire le virage. Voilà, donc c'est très intéressant. Travaille à la chaîne chez Renault. Il est viré parce qu'il n'a pas le droit d'aller faire pipi à une autre heure que l'heure dite. Enfin voilà, il est très là-dedans. D'ailleurs, la couverture avec la roue, ça fait penser au temps moderne de Chaplin, l'absurdité du travail à la chaîne. Voilà.
Il le dit d'ailleurs qu'à la fin de la journée, à force de visser des boulons. C'est ça.
Donc il y a le côté très dur du travail et en même temps le côté complètement absurde, loufoque de certaines situations. Donc on rigole beaucoup, c'est une BD vraiment très très drôle. Oui. Et puis après, donc, il passe toute une période à faire des petits boulots. Alors après pareil, il y a l'épisode quand il va à la NPE de l'époque où on ne lui trouve pas vraiment de travail. On essaye de lui apprendre à faire un CV, enfin voilà, toutes ces époques-là. Et puis à la fin, il va devenir animateur dans une MJC. Donc, il y a aussi tout le côté très ironique de la MJC où on veut apprendre aux personnes à utiliser l'ordinateur pour faire un CV. Puis finalement, ils ont juste envie de jouer aux jeux vidéo. Donc, il y a le côté aussi... il tacle un petit peu le côté action socioculturelle où on essaye d'apporter aux gens. Bon, finalement, c'est pas vraiment réussi tout ça. Donc, c'est très drôle, c'est très bien vu, très humoristique. Et à la fin, l'ouvrage se termine par une postface, on va dire un tout petit essai de Julien Bordier qui, en fait, lui aussi travaille sur la notion du travail. Et donc, il va expliquer qu'en fait, le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, actuellement, c'est une construction en fait, de société et que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, c'est très intéressant parce que ça clôt bien cette idée un peu, d'absurdité et de violence en fait, de certains de ces métiers qu'il a un peu touché du doigt. Voilà, donc c'est très...
Oui. Je n'ai pas de projet professionnel.
Oui. Il est vraiment... Et puis là, pareil, dépôt de bilan de compétences. On est vraiment sur l'ironie aussi, l'humour un peu grinçant, humour noir même. Donc vraiment une très bonne bande dessinée. On rigole beaucoup. Ça fait vraiment réfléchir sur le monde du travail. Et puis un graphisme tout en rondeur, en même temps avec des hachures. Enfin, c'est vraiment... je trouve que c'est du bel ouvrage aussi. Hein. On est vraiment... Voilà. Et puis le côté un peu... Je regarde par-dessus mon épaule, quoi. J'essaye de voir un peu l'évolution. Et donc pareil, j'espère que celui-là aussi trouvera sa place sur les étagères. Parce qu'on n'a pas encore décidé encore la commission. C'est vendredi prochain. Donc voilà, on lit, on discute, on essaye de choisir. Et après, on a des petits coups de cœur comme ça. Donc on se dit, bon, voilà. Mais après, c'est collectif. Hein, les achats, c'est vraiment quelque chose de collectif.
Celles-là, elles ont vraiment quand même été appréciées par un bon nombre de collègues. Donc je pense que...
Et honnêtement, autant la dernière rose de l'été, c'est vraiment quelque chose qui a eu une énorme couverture presse. Voilà, d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une dédicace organisée avec Lucas Harari le 6 novembre de 15h, à partir de 15h. Après, il faut contacter Bédélire pour le lieu qui est encore incertain. Donc vraiment, très bonne couverture presse et méritée. Hein, plein d'articles élogieux sur la dernière rose de l'été. Autant de bilan de compétences, honnêtement, je ne l'avais pas du tout repéré. Donc c'est aussi le rôle des libraires de nous faire... connaître comme ça des maisons d'édition peut-être moins connues, des artistes un petit peu moins qui ont pignon sur rue, on va dire. Et donc voilà, c'est tout l'intérêt justement de ce travail avec la librairie Bédélire.
Donc ça veut dire qu'ils vous prêtent un lot
C'est ça, voilà. Donc comme je disais au début, soit c'est des choses qu'on a repérées, on leur demande, soit c'est vraiment leur choix personnel par rapport à l'actualité éditoriale. En fait, ils vont nous fournir des ouvrages. Et souvent... Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas repérées et c'est vraiment des bonnes surprises.
Bah donc, si on a un peu de temps encore, la dernière, Rita Sauvée des Eaux, de Sophie Legoubin-Copeil au scénario et Alice Cherbin au dessin, aux éditions Delcourt. C'est vraiment une très belle découverte. Au départ, avec des collègues, on n'était pas... on était un peu réticents au niveau du graphisme. Et en fait, une fois qu'on est embarqué dans l'histoire, on est embarqué dans le dessin aussi. Et finalement, en fait, ça colle assez bien aussi avec l'histoire qui est racontée. Donc, la scénariste Sophie Legoubin-Copeil nous raconte en fait comment encore toute jeune, elle perd son père lors d'un voyage en Inde, alors que ce dernier tente... et réussit à sauver une jeune mariée indienne de la noyade, mais au prix de sa vie à lui. Elle nous présente ainsi ses recherches pour retrouver cette dame des années après, comment ensuite elle la retrouve et commence à nouer une très belle et forte relation avec elle. Elle évoque aussi les souvenirs qu'elle a de ce terrible jour, malheureusement, et ce qui va en découler. Mais c'est aussi surtout... peut-être une très belle déclaration d'amour qu'elle fait à l'Inde et à ses proches. Et c'est vraiment une très belle manière de découvrir ce pays si, si particulier. J'ai beaucoup aimé le travail des couleurs qui, je trouve, illumine par petites touches le dessin. Et ça fait un peu comme à l'image de cette histoire qui apporte l'espoir, la vie après la mort... et la tragédie alors qu'on ne l'attendait plus. Et c'est vraiment une histoire très, très touchante, très émouvante, sans être plombante, justement. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus, l'œuvre est ponctuée de belles citations qui invitent à méditer un instant, puis à se replonger dans cette histoire incroyable et vraie. Et je voulais finir par la lecture de la quatrième de couverture. Rita Chaitanya Rimki, c'est son nom. Celui qui transforme mon histoire. Trois mots poétiques, guerriers mais chantants, posés sur l'avenir, à rattacher au passé. Parce que ça montre vraiment ce travail qu'elle va faire pour aller de l'avant. Tout en, c'est ça, en se rattachant à cette histoire familiale que lui demande sa fille, en fait, une fois qu'elle rentre dans l'adolescence. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque
pas,
chose.
Je ne sais pas lui, mais je crois qu'il y a une autre collègue aussi qui aimait beaucoup.
Oui, on est trois à avoir vraiment eu un énorme coup de cœur. En plus, il y a un petit glossaire à la fin avec de très jolis dessins. Et pour expliquer donc un petit peu le vocabulaire, certains termes spécifiques à la culture indienne. Et donc ça, c'est les remerciements aussi. Que les remerciements sont très, très beaux. Et voilà le mini glossaire avec... l'illustration qui montre les tenues traditionnelles, le mantika, le sindur.
Oui, vraiment, c'est... on a des photos aussi de sa famille, de ses amis. C'est vraiment un très, très bel ouvrage, très belle découverte. Ouais. Voilà.
Fin de cette méridienne. Merci à nos chroniqueurs, Raphaël Moreau pour sa chronique sur Fessenheim. Merci Antoine Basset pour son interview reportage sur le voguing. Et merci à nos médiathécaires de la bibliothèque municipale. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes. Vous écoutez Radio Campus Tours.